vous avez tous constaté qu'on a eu droit à deux présentations qui nous ont offert des éclairages extrêmement différents sur la question des clauses sociales. L'une qui essaie de le rallier, de l'articuler avec les théories des relations internationales d'une certaine façon, la théorie du droit international qui s'attache beaucoup à l'effectivité, à l'efficience de ces accords-là et dans une approche normative, et une autre qui nous vient vraiment d'une approche plus de sociologie du droit, quasiment de philosophie du droit, et qui essaie de replacer cet outil-là dans le contexte d'un débat plus large entre les droits individuels et les droits collectifs, et la constitution du droit du travail. Donc je pense qu'on a beaucoup de terrain. De façon intéressante aussi, on se rend compte que les exemples et les illustrations se rejoignent, en particulier sur ce fameux cas du Cambodge dont on a déjà discuté d'ailleurs dans le premier panel ce matin, donc je pense qu'il y a énormément de discussions à avoir là-dessus. Je ne veux pas prendre de place puisque je suis sûr qu'il y a plein de questions, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre peut-être dans un premier temps deux premières questions, ensuite redonner la parole à nos conférenciers, ensuite on reviendra à la salle si ça vous convient. Oui.
Oui, en fait, j'avais quelques commentaires, mais vraiment je trouvais très, très intéressantes les deux présentations, merci beaucoup. Un premier commentaire concernait l'importance des négociations commerciales comme levier pour faire progresser la protection des droits des salariés sur le plan international. Je vous mentionne par exemple le cas de mon pays d'origine, le Pérou. À l'occasion des négociations commerciales avec les États-Unis, ayant abouti à la signature d'un accord de libre commerce, le secteur syndical et les secteurs qui étaient en faveur de la protection des droits des salariés ont profité de l'occasion, sont allés du côté des membres du Sénat des États-Unis pour chercher des alliés, et ils ont obtenu certaines modifications législatives et portant surtout sur des limites imposées pendant le gouvernement de Fujimori et concernant l'exercice justement de la liberté syndicale. Donc le gouvernement péruvien à l'époque, il était prêt à tout faire afin de conclure cet accord de commerce. C'était vraiment très important dans les stratégies commerciales de ce gouvernement. Et il y a des acteurs qui ont constaté justement l'importance que cet accord possédait pour le gouvernement péruvien, et ils ont profité de cette occasion. Deuxième point, c'est l'importance aussi de voir en tout cas, ou d'envisager un potentiel coercitif du côté des normes internationales commerciales. Quand j'ai eu l'occasion de faire mon travail de terrain en Équateur sur le travail des enfants, j'ai pu constater qu'il y a eu des avancements, des améliorations du côté de la protection des droits des enfants en Équateur. En fait, on a créé un service d'inspecteurs qui porte leur attention juste sur les droits des enfants. Pourquoi ? Parce que les entrepreneurs bananiers avaient peur de subir des sanctions commerciales de la part de l'Union européenne, notamment, et puis de la part des États-Unis. En fait, j'ai interviewé le sous-ministre des commerces de l'Équateur et il l'a avoué. Le dernier point sur lequel je voulais faire un petit commentaire, c'est la question de la coopération. En fait, je trouve qu'il est vraiment fondamental. Je peux constater ça dans le cadre de mes études doctorales. Et en fait, si on reprend l'exemple de l'Amérique latine, on voit qu'on a bâti un cadre institutionnel mondial boiteux. Pourquoi ? Parce que au moment de faire des ajustements structurels aux États-Unis, la Banque mondiale et le FMI ont mis beaucoup de pression sur la transformation, par exemple, de l'Agence de revenus du Pérou, sur la professionnalisation de la bureaucratie du ministère de l'économie ou de la Banque centrale. Et ils ont offert des fonds vraiment extraordinaires pour que ces institutions puissent attirer les professionnels les plus compétents du pays qui ont été embauchés par ces agences. Mais en même temps, on n'a pas reçu de coopération de la part des institutions internationales pour améliorer le service d'inspection qui est clé dans la protection des droits des travailleurs. Quand je suis allé en Équateur, c'était incroyable, il y avait juste un inspecteur pour presque 2 millions de personnes. Donc ça vous donne une idée. J'ai interviewé des fonctionnaires du ministère des Ressources humaines du Canada, et ces fonctionnaires m'ont dit, écoutez, en 2008, notre budget pour faire de la coopération internationale était de 3 millions de dollars. Donc, je trouve que c'est beau de parler dans les accords de coopération dans le domaine du travail, de coopération, mais si on ne se donne pas les moyens, c'est purement de la pose.
Merci. Je vais prendre une autre question ou commentaire de Sid. Ensuite, je reviendrai à nos conférenciers, puis je donnerai d'autres paroles, en essayant d'être relativement concis, si on veut que tout le monde puisse s'exprimer.
Sid. Merci Thomas, je remercie les deux conférenciers. Je trouve que ça colle bien avec ce qui a été dit ce matin. Mais personnellement, je vais davantage rebondir sur la thèse de Dorval. Moi, que je trouve particulièrement intéressante parce qu'elle dialogue aussi de façon très efficace avec ce qui est dit ce matin. Mais concernant cette appréciation de la période après la Seconde Guerre mondiale, qui a démarré avec la Seconde Guerre, ce sentiment de relation sympathique vis-à-vis du travail, je ferai une remarque qui pourrait peut-être expliquer le constat que tu as fait aujourd'hui, notamment concernant les forums sociaux mondiaux. Cette situation d'après-guerre qui a donné lieu aux Trente Glorieuses résulte quand même aussi d'une longue période de lutte sociale menée par le mouvement syndical qui était à la recherche de son institutionnalisation. Et que donc l'action menée par le mouvement syndical a très probablement contribué à cet ordre labor-friendly dont tu parles, sans compter bien entendu l'appui ensuite institutionnel du Bloc de l'Est, etc. Mais c'est d'abord et avant tout ce mouvement ouvrier qui s'est institutionnalisé, qui a contribué à cette situation. Or, ce qu'on constate, après la période que tu as décrite, notamment en termes de droit, concernant l'individualisation du droit du travail, hein, qui est un constat juridique, mais il y a aussi le constat sociologique, celui dont on a parlé ce matin, celui de l'individualisation du rapport salarial, qui est à la base de la transformation, de ce que tu as appelé une transmutation, hein, et qui aboutit à cette libéralité dont tu as parlé tout à l'heure. Et là, ce qu'on constate aussi, c'est que ce mouvement syndical, qui n'est plus le mouvement ouvrier, qui était axé dans les transformations sociales avant, avec l'institutionnalisation, s'est retrouvé aujourd'hui, et là je pose la question à Jim Beckel aussi, se retrouve aujourd'hui en train de vouloir changer les choses, mais dans un cadre strictement institutionnel. Or, on le sait bien que ce cadre ne se prête pas à ces transformations-là, d'une part, et d'autre part, le mouvement syndical, en tant qu'acteur institutionnalisé aussi, est obligé aussi de tenir compte de cette chose nouvelle qu'on appelle, de cet acteur nouveau, hein, qu'on appelle la société civile, de ce champ que Beck qualifie de sub-politique, et dans lequel le mouvement syndical se fourvoie un petit peu aussi, puisque lui aussi, quand il va aux forums sociaux mondiaux, hein, il se passe ce que tu as décrit tout à l'heure. Moi, beaucoup de syndicalistes, beaucoup de dirigeants syndicaux me disent « Oui, quand on va aux forums sociaux mondiaux, on ne signe pas de convention collective. Il y a une grand-messe, puis on s'en va les poches vides. » Alors, donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a. Donc, et ça, c'est le concept syndicaliste même. Donc, le problème qui se pose ici, c'est que simplement, on ne peut pas fustiger simplement, on ne peut pas se référer uniquement à la thèse de Lévy, mais aussi à peut-être repenser les stratégies d'action syndicale. Et c'est pour ça que moi, je repose la question à Jim Beckel.
Merci Sid. Je vais laisser 2 minutes à chacun de nos conférenciers. Ensuite, je prends les 2 questions qui m'avaient été signalées, puis on sera obligé de conclure là-dessus. Kevin, si vous voulez réagir, peut-être.
OK. De mon point de vue, ces accords de libre-échange avec des clauses dans le domaine du travail sont simplement un aspect de l'établissement d'un cadre qui pourrait permettre à changer les rapports de force sur la Terre, au niveau de la pratique. Moi aussi, j'ai parlé aux syndicats en Amérique centrale quand on était en train de négocier pour un accord de libre-échange avec les 4 pays là-bas, et uniformément, les syndicats nous ont indiqué qu'ils appuyaient nos efforts, qu'ils trouvaient que la lumière internationale sur leurs problèmes était essentielle. J'ai reçu le même message d'un ministre de Travail en Amérique centrale, que lui ne pouvait pas faire son travail sans un appui international parce qu'il se faisait marginaliser dans son cabinet. Ainsi qu'un autre ministre qui nous disait que notre assistante technique avait remonté son profil au sein de son cabinet. Alors, je ne veux pas exagérer, mais il y a des effets potentiels. Le droit de grève même est plus efficace lorsque soutenu par un encadrement légal qui rend illégitime la suppression directe par les employeurs. Et je pense que ce n'est pas une coïncidence que le droit de grève était plus efficace après la Deuxième Guerre mondiale au Canada, lorsque le modèle Wagner s'est établi ici. Alors, il y a un lien itératif entre le droit et les rapports de force, et je pense que ces cadres peuvent contribuer à l'avancement.
Merci.
C'est tout.
Merci. Dora?
Moi, je saute pour entendre les deux autres questions.
OK, super. Alors, Richard Langlois, et puis j'avais une autre question ici.
Oui, merci, Thomas. Je veux revenir un peu sur les propos de Laurent, particulièrement frappé. Je trouvais intéressant là, l'idée du passage de labor-friendly à labor-unfriendly, que tu n'as pas situé historiquement, mais que je présume doit à peu près arriver, là, cette espèce de chiffre-là doit à peu près coïncider avec l'avènement du néolibéralisme, j'imagine, donc au tournant des années 80. Avec la déréglementation et par la suite avec une financiarisation effrénée de nos économies. Comment inverser le courant, comment rétablir le rapport de force? Je pense que dans le contexte, le balancier est allé tellement loin sur le plan de la déréglementation et du néolibéralisme que je ne pense pas rien révéler en disant que les organisations syndicales ne font pas ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles peuvent, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Elles sont acculées à la défensive, purement et simplement. Donc, quand on est occupé à se défendre, c'est pas si facile que ça de monter au front pour combattre. Je regarde même les exemples les plus... Même quand il y a des partis au pouvoir qui sont un peu plus favorables aux droits des travailleuses et des travailleurs ou à la classe moyenne, et on en a des exemples récents au Québec, de débats autres que, par exemple, le débat national. On a vraiment eu un petit cours 101 de lutte des classes là, avec l'histoire de la fiscalité au Québec, je trouve. On l'a vu, ils ont monté au front assez rapidement, puis il y a eu un recul prononcé. Je regarde ce qui se passe en France aussi avec l'élection des socialistes. Je regarde le débat d'hier soir entre Obama et Romney, où Obama s'excusait presque à chaque fois qu'il parlait de réglementer ou de taxer davantage. Donc, je vois mal, à court terme ou dans un horizon rapproché, je vois mal comment ça peut passer par... L'inversion pourra se faire autrement que par une inversion sur le plan politique et des politiques économiques. Les syndicats sont un peu pris dans un étau et on le voit autant les deux seuls endroits où ils ont des formules tripartites, je parlais tantôt du TOIC, à l'OCDE ou même à l'UNIP, mais encore là, on est plus occupé à se défendre qu'à attaquer. C'est un triste constat, mais c'est la réalité.
Merci, Richard. Je prends une dernière question avant de demander à nos conférenciers de conclure.
Oui, ben, moi, c'est une question pour M. Baptiste. Donc, j'ai bien aimé votre présentation, entre autres parce que ça tente de répondre à une question très certainement qu'on a depuis le début sur les autres conférences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va favoriser, le hard law versus le soft law? Est-ce qu'on favorise l'évolution normative ou un changement qui est fait sur la coercition? Puis, je suis content de voir que la théorie des jeux en soi peut donner des réponses aussi fertiles à l'autre. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que, comme vous le dites, les approches qui sont axées sur la coercition ont tendance à exacerber une logique de zéro sum qui mine la coopération. Puis, le côté moral suasion, c'est, on se rend compte que ça repose sur une moralité qui est surtout inter-individuelle, qui a tendance à changer avec les changements de gouvernement, avec les distances entre les peuples qui sont exacerbées par la mondialisation. Donc, votre approche, c'est un petit peu voir plus loin que ça. Sauf que j'ai quand même une petite question pour ça. Premièrement, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est efficace parce qu'on se rend compte que quand on a tendance à offrir des bénéfices à court terme et des perspectives potentielles à long terme. Ça joue sur certains biais cognitifs qui peuvent être importants pour directement des négociations. Puis, aussi, bon, ce qu'on se rend compte, c'est que ça pourrait être intéressant. Sauf que ça a tout de même le même problème que certaines approches. J'ai pas lu votre paper au complet, bon, sans pas dans quel monde c'est bon. Mais ça reste tout le temps une approche qui est centrée sur les incentives. C'est-à-dire, à court terme, je trouve personnellement que ça peut être bon pour débloquer des issues, pour essayer d'atteindre une coopération à long terme. Par contre, une fois qu'on a réussi à structurer à modifier la structure d'incentives, puis de punitions, puis tout le reste, une fois qu'on a obtenu une coopération à court terme, qu'est-ce qui se passe après? Donc, est-ce que vous voyez une place, justement, pour le hard law, pour, disons, définir certaines coopérations et la moralité pour la profondeur?
Mm-hmm. Merci. Eh bien, moi, j'utilise le mot « leverage » dans mon papier, qui évite la distinction entre les incentives, les incentifs et
incitatifs
et les sanctions. Et c'est délibéré parce que je crois qu'une fois qu'un incitatif est acquis, on commence à croire qu'on a le droit à cet incitatif et l'enlever, ça devient une sanction. Alors, en effet, au fil du temps, la distinction s'efface. Pour moi, ça demeure important qu'il y ait des conséquences économiques si les obligations ne sont pas rencontrées. Et ça devrait être structuré dans l'accord. Ça me surprend pas qu'on ait plus de problèmes à faire marcher le Better Factories Project au Cambodge maintenant que le quota est enlevé, l'accès au bonus, quota bonus est enlevé, parce que l'incitatif ou la sanction, dépendant de quel langage on va utiliser, n'est plus là de la même façon. Alors, est-ce que ça répond?
Je vais être obligé de... On pourra peut-être la poursuivre ouais, dans le corridor, parce qu'autrement, on va avoir des problèmes avec leur poche. Je laisse le mot de la fin à Dorval.
La question qui nous taraude, en fait, c'est la question de savoir comment penser l'ordre international dans le contexte actuel et est-ce qu'on peut le réformer ou le revisiter pour essayer de voir comment inscrire au centre la préoccupation du travail. Maintenant, on l'a à tous les niveaux, là. Est-ce qu'il ne faut pas faire son deuil du système de l'ONU avec toute son architecture si impeccable, hein? Est-ce qu'il faut faire son deuil de ça et on s'en irait vers un système beaucoup plus complexe où il faudrait miser sur l'accumulation des initiatives dont vous avez parlé ce matin? C'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut aller sans trop vouloir rationaliser tout ça à l'intérieur d'un cadre overarching, comme on dit en anglais, et de fonctionner plutôt à la pièce. ACE, ACI, clause sociale, rien n'est mauvais en quelque sorte. Il s'agirait donc de les accumuler. C'est très insatisfaisant sur le plan intellectuel de fonctionner comme ça. Est-ce qu'on peut aller vers... parce qu'en face, disons-le, en face, le système a l'air compliqué, mais il ne l'est pas trop, là. Il y a deux grands concurrents, hein, les grandes organisations financières internationales, l'OMC, le système de l'ONU est un peu marginalisé, le reste du système de l'ONU. Est-ce qu'il y a moyen d'établir à ce niveau-là un rapport de force? Alors, la question est posée. Je ne vois pas de solution. Dans le court terme, je suis un peu pessimiste comme Cyril, mais je ne vois vraiment pas de solution. D'où le fait qu'à l'heure actuelle, oui, le mouvement syndical, le mouvement ouvrier, plutôt réactif, n'est pas capable de reprendre une initiative. Est-ce qu'on peut envisager qu'une initiative soit reprise? Je ne sais pas. J'imagine que je vous regarde parce que vous allez régler tout ça ce midi. Tout le monde s'adresse à vous, là, votre expérience et tout ça. Vous allez nous régler ça ce midi.
Merci beaucoup à nos deux conférenciers et à vous pour vos questions.